Le 12 juin, c'est le défi Fête rasée au profit de Lecan à la microbrasserie La Barberie. De 14h30 à 16h, CKRL sera sur place et diffusera en direct une émission spéciale animée par François Tremblay, Michel Marcoux et mettra en vedette les braves qui sacrifieront leur chevelure pour la bonne cause. Dès 16h, un encan animé par Michel Marcoux de La Barberie permettra de faire grimper les enchères grâce aux dons des nombreux commanditaires. Venez assister à la transformation de Sylvie, Xavier, Geneviève, Maude et tous les autres qui affronteront les ciseaux de nos experts raseurs. Pour tous les détails, consultez la page Facebook de La Barberie, section événements.
1970, 8 étudiants de l'Université Laval préparent un dossier en vue de l'obtention d'un permis du CRTC dans le but de créer une station de radio. Le permis est accordé. 15 février 1973, CKRL 89.1 émet pour la première fois à 17h. Point de départ de ce qui deviendra une aventure d'une richesse inégalée. Aujourd'hui, la plus vieille radio communautaire en Amérique du Nord, voire même dans le monde, CKRL est toujours là. Grâce aux milliers d'animateurs, de réalisateurs, de collaborateurs qui ont animé ces ondes. Et grâce à vous, auditeurs et auditrices toujours nombreux, toujours à l'écoute. Merci de laisser CKRL 89.1 cultiver vos goûts depuis 1973.
À CKRL, l'émission du retour, c'est comme les sushis. Plus on les savoure, plus on est junkie. Le retour, c'est l'animatrice Tania Beaumont et ses collabos complices à Change de disque. Du lundi au vendredi, dès 15h30, l'animation au plus que parfait du féminin pluriel.
Seulement au 89.1.
Les samedis, minuit, partez sur l'autoroute aux côtés de Stéphane Villeneuve et sa musique rock et progressive, les années 1970 et 80.
CKRL 89.1.
Guillaume Lafleur sur les ondes de CKRL 89.1. Vous écoutez de midi à 1h au 7e ciel, une émission entièrement consacrée au cinéma. L'émission est sous-titrée « Regard sur le cinéma », « Regard avec un S ». Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas simplement une manière de parler du cinéma, une façon d'affronter ce monstre qui a tant marqué le 20e siècle et qui continue à alimenter nos imaginaires aujourd'hui et qui continue à se réinventer. Aujourd'hui, parler du cinéma, ben, on peut le faire donc de plusieurs manières. Il y a plusieurs manières de s'exprimer par l'image en mouvement. Ça peut être l'image animée, ça peut être... évidemment, le documentaire, le cinéma expérimental, ça peut être une nouvelle plateforme de diffusion avec lesquelles il est possible de découvrir des films qu'on n'aurait pas pu découvrir autrement. Les films sont à la fois, et c'est paradoxal, de plus en plus accessibles sous divers formats et de plus en plus difficile de les voir lorsqu'ils sont un peu pointus, un peu subtils dans le cadre des grands axes de diffusion qu'on connaît aujourd'hui. Donc, une des missions d'Au 7e ciel, c'est aussi essayer de montrer et de parler de films que l'on voit plus difficilement, auxquels on n'accorde pas nécessairement d'importance, alors que c'est parfois justement ces films qui réinventent encore la manière de voir le monde à travers une caméra. Donc, aujourd'hui, justement, j'aimerais, dans la première demi-heure, parler d'un film qu'on désespère de voir jamais sur nos écrans et qui s'appelle White Material de Claire Denis, un film qui a été réalisé en 2009, présenté au Festival de Toronto à l'automne cette année-là et qui, depuis, n'a pas trouvé preneur, un distributeur dans les salles, ce qui est un phénomène de plus en plus courant aujourd'hui du moment qu'il y a une proposition artistique qui sort un peu des sentiers battus et déstabilise les spectateurs et les... non pas les penseurs du cinéma, mais bien ceux qui pensent à ce que devrait aimer le public. Donc, on va un peu penser à leur place aujourd'hui et parler du film White Material de Claire Denis. Claire Denis, qui est une cinéaste que j'aimerais prendre le temps de présenter en essayant de bien contextualiser ce film qu'on peut trouver quand même sur DVD en ce moment. Pas nécessairement au Québec, disons chez le commerçant du coin, mais on peut le commander. Entre autres, il est édité chez Criterion aux États-Unis, qui est peut-être une des meilleures collections de DVD à circuler dans le monde, ou du moins en Amérique du Nord, entre autres pour ce qui concerne la qualité du contenu éditorial qui accompagne chaque film, que ce soit aussi bien au niveau du livret qui vient avec le DVD qu'au niveau des bonus qu'on y trouve sur ce DVD. Donc, White Material de Claire Denis, une cinéaste française majeure qui est l'une des cinéastes, aussi bien hommes et femmes, en fait, qui a une influence au-delà de la France ces années-ci. Et dans la deuxième partie de l'émission, j'aimerais parler d'un film qui est présentement à l'affiche au CLAP, tout juste à l'affiche, et je dirais, pressez-vous pour aller le voir, puisque je ne sais pas combien de temps il va rester en salle. C'est le film Belle Épine de Rebecca Zlotowski, qui met en scène Léa Seydoux, qui est une nouvelle égérie du cinéma français. Donc on reste pas mal dans l'axe franco-français cette semaine, et peut-être que si on a un peu de temps, on fera un clin d'œil également au film Midnight in Paris de Woody Allen, qui nous permet de rester dans l'axe franco-français avec un peu de décalage quand même. À tout de suite. d'entendre Jean-Louis Murat, une pièce tirée de son album Le Moujik et sa femme, un album qui est sorti il y a déjà quelques années, en 2002, et la chanson s'appelait « Ceux de Mycène ». C'est pas innocent, des fois je choisis des pièces musicales qui sont pas nécessairement en lien avec ce dont je viens de parler, simplement pour créer un effet de contraste. Mais là, c'est pas innocent de présenter Jean-Louis Murat, alors que juste avant, je vous annonçais que j'allais parler de la cinéaste Claire Denis, puisque Claire Denis et Murat ont collaboré ensemble dès les années 90, entre autres à travers la réalisation d'un film de Claire Denis qui s'appelait J'ai pas sommeil, un film où on entend une de ses chansons fameuses, en fait, qui s'appelle Le lien des faits, que l'on retrouvait, je crois, sur son troisième album solo. Et tout au long de la filmographie de Murat et de la filmographie, pardon, de Denis et de la discographie de Murat, il y a eu des jeux d'écho entre eux, notamment parce que tous les deux ont travaillé avec les gens des Tinder Sticks, un groupe britannique, et ce sont eux qui font la musique des films de Claire Denis, et ça a même suscité l'édition d'un coffret d'album sur l'étiquette montréalaise Constellation, qui fait la rétrospective du travail partagé entre Tinder Sticks et Claire Denis depuis la fin des années 90, voire le début des années 2000, au moins depuis un film curieux, un film de vampire qui s'appelait Trouble Every Day, mettant en scène Béatrice Dalle et Vincent Gallo, où on entendait la voix gutturale caractéristique du chanteur et du leader des Tinder Sticks, et ce tapis de cordes qui est aussi caractéristique de la langueur et de la mélancolie que l'on retrouve dans la musique des Tinder Sticks, un des groupes phares de la scène indie britannique, disons indie sophistiqué, avec des textes relativement littéraires et un côté assez torturé. Et entre autres, ce tapis de cordes, on le retrouve également, et c'est là où il y avait une collaboration entre Tinder Sticks et Murat. Au niveau des arrangements, l'arrangeur des Tinder Sticks travaillait entre autres avec Murat sur la musique qui se trouve dans l'album Moscou de 2005. Et également dans quelques pièces d'un album précédent qui s'appelait Lilith en 2002. C'est une période assez pléthorique pour Murat, le cours des années 2000, qui est aussi en phase avec la production de Claire Denis, qui s'est accélérée au cours des dernières années. Entre autres, je disais que White Material est un film qui n'a pas été diffusé, le film dont je vais parler un peu plus en avant dans la deuxième partie de cette demi-heure. Pour l'instant, je contextualise un peu le travail de Claire Denis. Donc, White Material, c'est un film qui n'a pas été distribué au Québec, qui est sorti en 2009, qui a été présenté pour la première fois en Amérique du Nord au Festival du film de Toronto. Bien qu'il soit édité aux États-Unis, le film avait trouvé un distributeur via IFC, qui est un distributeur basé à New York, où il a une salle de répertoire importante dans Greenwich Village, mais c'est aussi, disons, l'une des références pour ce qui a trait à la diffusion du cinéma indépendant américain et du cinéma d'auteur au sens plus large. IFC est un modèle de distribution aujourd'hui qui vaut comme exemple aussi bien en Amérique du Nord, je pense, que dans le monde, dans la mesure où on trouve les films en diffusion, bon, à Greenwich Village, mais pour les Américains qui n'y sont pas, et il y en a quand même des masses, la majorité des Américains, évidemment, ne vivent pas à Greenwich Village, faut-il le rappeler, pour les aficionados de New York. Donc, pour voir les films achetés par IFC, c'est toujours possible de les regarder sur leur site Internet via leur plateforme. Si on est abonné, on peut se passer les films qui sont diffusés au même moment à Greenwich Village en streaming. On peut les voir donc en flux constant. Pour parler plus français, on peut les voir sur les sites. Et c'est le cas de White Material, il y a quelques mois, qui a été présenté par IFC à New York et sur leur site web. Nous, on n'y a pas accès depuis le Canada. Il faut être résident américain, sauf erreur. Et par ailleurs, ce film-là, bien qu'il ait été acheté aux États-Unis, est invisible au Canada. Donc, c'est pour dire que l'idée reçue selon laquelle beaucoup de films peuvent être vus à Montréal qu'on verra pas aux États-Unis ou à New York est encore plus caduque si on a en tête les nouvelles plateformes de diffusion. Et le cinéma de Claire Denis a d'autant plus une grande visibilité qu'elle a aussi fait ses armes à un moment où le cinéma français piquait du nez, et Claire Denis piquait du nez au niveau international, au niveau de sa réception. Si on regarde les chiffres Depuis, en fait, même le démantèlement du Bloc de l'Est en particulier, il y avait un public naturel pour tout un nombre de films, disons, entre autres, des films sociaux ou les comédies populaires. Il y avait donc un public naturel qui était positionné dans l'ancien Bloc de l'Est et en Union soviétique. Donc, c'est plus le cas maintenant. Et il y a pas eu de suite. Et peu à peu, il y a toute une large part du public français qui change. Et entre autres, un des nouveaux marchés, c'est la Chine. Mais le Canada est un peu, et le Québec, évidemment, est un peu laissé de côté. Donc, faut pas se raconter d'histoire. Il y a pas plus de films français achetés, ou à peu près pas, achetés aux États-Unis ou en Chine qu'au Québec. Et surtout pas des films d'auteur. Donc, pour le cinéma Claire Denis, disons, la nouvelle ligne qu'il a dessinée, on la retrouve à partir de la fin des années 80. Pour comprendre le film White Material, il faut se replacer à la fin des années 80. Lorsque Claire Denis, qui était auparavant assistante de Wim Wenders, le grand réalisateur allemand qui est un peu déchu maintenant, un ange déchu, réalisateur des Ailes du désir et de Paris, Texas, qui ont été des films emblématiques du cinéma d'auteur européen occidental des années 80, emblématiques aussi de tout un renouveau du cinéma allemand, une nouvelle manière d'appréhender aussi le cinéma du point de vue de la cinéphilie dans un dialogue entre l'Est et l'Ouest qui se découpait un peu de façon grossière entre les États-Unis et l'Allemagne, puisque Wenders s'est toujours un peu senti errant dans le cadre allemand avant la chute du mur de Berlin. Donc ce cinéaste-là est un peu perdu après la fin des années 80. Et Claire Denis, qui a assisté donc Wenders dans ses aventures au cours des années 80, a pris un peu le relais de cette errance de personnages que Wenders aimait à représenter, soit dans des contextes de road movie, soit dans des contextes qui sont ceux de l'exil. Et la référence américaine était à ce moment-là primordiale, que ce soit pour un film, par exemple, hommage à Nicholas Ray, un grand cinéaste hollywoodien, à travers un film qui s'appelle Nick's Movie, que ce soit encore via un film qui s'appelle The American Friend avec Bruno Ganz, ou encore L'état des choses. Dans le cas de ces deux films, il y a un dialogue assez fécond, disons, entre Allemagne et les États-Unis, qui passe par la référence cinématographique et qui passe aussi par l'idée du cinéma comme marché, comme industrie et lieu de corruption où le créateur, le cinéaste est toujours pris à partie, mis à mal. Et quelqu'un comme Claire Denis a dû se battre avec cette réalité du cinéma à la fin des années 80 et a pris à bras le corps cette problématique, entre autres de l'errance, de l'exil, à travers sa propre expérience, qui est celle d'une jeune femme qui a grandi au Cameroun, avec des parents qui finalement ont connu la décolonisation. Et son premier film, Chocolat, témoignait de ce phénomène de décolonisation, pas nécessairement, c'est un film historique, donc pas nécessairement en montrant la décolonisation, mais plutôt en s'intéressant au point de vue, par exemple, de l'esclave qui était incarné par l'esclave, ou plutôt c'est pratiquement un personnage noir, autochtone, réduit à un quasi-esclavage par les rapports d'autorité qui le liaient à ses maîtres, puisqu'il était plus ou moins homme de ménage dans une résidence de grand colon. C'est un peu le sujet du film Chocolat, mais Claire Denis s'intéressait principalement donc au point de vue de l'offensé qui est incarné par le personnage d'Isaac de Ben Colley, l'acteur Isaac de Ben Colley, qui est toujours un des acteurs fétiches du cinéma de Claire Denis aujourd'hui, et que l'on retrouve dans White Material.
Thank you.
Et oui, on vient d'entendre les Indomptables du groupe Big Satin, composé des Tim Byrne, Marc Ducret, Tom Rainey, un album qui s'appelle Souls Saved Here, une pièce qui s'appelle Guise. Guillaume Lafleur sur les ondes de CKRL, vous écoutez Au Septième Ciel, Regard sur le cinéma, dernière partie de la première demi-heure, je ne sais pas si ça se dit, deuxième partie de la première demi-heure d'une émission qui est pour le moment consacrée à Claire Denis et à son dernier film White Material. Claire Denis donc est une cinéaste française contemporaine qui a entre autres mis en scène les affres de la décolonisation dans un premier temps de façon historique à travers son premier long métrage qui s'appelait Chocolat, qui mettait en vedette Aurore Clément et Isaac de Bancolé ainsi que François Cluzet, et le dernier film donc de Claire Denis en date, c'est White Material 2009 avec Isabelle Huppert dans le rôle principal, à nouveau Isaac de Bincolé en personnage fantomal, mythique, une sorte de Che Guevara camerounais. Et c'est un film qui déplace un peu des enjeux qui avaient été mis en scène dans Chocolat du point de vue colonial, disons, dans les rapports de force entre colons et colonisés. Cette fois-ci, donc on est dans une réalité contemporaine à travers le personnage illustré via le personnage qu'incarne Isabelle Huppert, c'est-à-dire quelqu'un qui est propriétaire d'une terre d'exploitation de café, on pourrait le dire comme ça. Et tout le long du film, on a un fil narratif qui est assez décousu, difficile à suivre, mais qui est très fort sur le plan visuel. En fait, c'est une des qualités du cinéma de Claire Denis de faire passer à l'avant-plan la qualité visuelle, le travail du cadrage sur le contenu narratif, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contenu dans ces films, au contraire, mais simplement que le discours visuel est le premier relais avec lequel des informations en ce qui a trait à la fiction sont données aux spectateurs. Donc c'est pas dans un premier temps des dialogues, la situation historique d'un personnage, sa psychologie, qui vont nourrir le propos de la fiction. C'est plutôt la manière dont les personnages sont montrés avec une façon de les cadrer, une façon de passer d'un plan à l'autre qui diffère tout à fait de l'ordre commun de la narration fictionnelle au cinéma ces années-ci. Et c'est une des forces de Claire Denis de faire ça, c'est-à-dire de mettre en valeur le cadre comme premier vecteur de la fiction. Et on peut dire que dans le film White Material, elle pousse à un point d'extrémité cette façon de faire qui la distingue des cinéastes en général aujourd'hui. Et cette pointe d'extrémité-là implique pour le spectateur de perdre souvent le fil et de se laisser porter par un discours visuel et une force vraiment éloquente là, de la pure beauté des images et de la virtuosité que la cinéaste et sa directrice photo partagent dans la manière de partage pour raconter un film. Donc le récit est un peu des fois effacé par la beauté du film. Évidemment, c'est une beauté qui est tout à fait particulière parce que finalement, ce qu'on voit tout au long du film, c'est les difficultés avec lesquelles Isabelle Huppert, son personnage, essaie de mener à bien la cultivation du café sur sa terre, puisque on voit bien que la situation au Cameroun qui peut s'apparenter, bon c'est tourné au Cameroun, mais qui peut s'apparenter peut-être à l'histoire récente du Rwanda et implique en fait que le personnage qu'incarne Huppert devrait quitter les lieux, ce qu'elle ne fait pas. Donc il y a un acharnement dans cette volonté qui l'anime qui va mener à sa perte. Et cette fatalité dans laquelle se trouve le personnage, ben, Claire Denis y insiste parfois en jouant de la répétition, par exemple, ce sont les détails les plus infimes qui vont nous instruire de l'acharnement du personnage. Donc c'est pas nécessairement un travail physique qui impliquerait vraiment que Huppert fasse une performance physique. On voit bien qu'elle est tout à fait impliquée dans le tournage du film. On la voit courir dans des scènes où elle est face à une situation d'urgence. Elle doit rejoindre un autocar en s'y agrippant. Bon, il y a clairement dans la continuité d'un plan comme celui-là la démonstration que c'est bien Huppert qui fait cette séquence et pas une doublure. Bon, il y a un effort de l'actrice, un investissement qui est flagrant. Mais en même temps, les situations qu'on nous montre insistent surtout sur les détails qui font en sorte qu'elle s'acharne. Par exemple, au début du film, on voit le personnage, à un moment donné, fermer une clôture et l'ouvrir. Et on se demande pourquoi la séquence où on voit deux fois de suite la clôture avec cette action qui consiste à fermer et à l'ouvrir, pourquoi on nous montre ça deux fois? En quoi, finalement, y a là une nécessité? Est-ce que c'est pas plutôt une longueur du film? Mais quand on sait qu'il y a peu de dialogue, quand on sait que les informations passent par les gestes, par le cadrage, on se rend compte que finalement, Claire Denis livre au spectateur un détail vraiment important, parce que généralement, c'est les employés qui sont à la solde du père et de son compagnon, donc les exploitants, les employés qui sont à la solde de ces exploitants, qui doivent ouvrir et fermer la clôture, jamais le propriétaire. Un propriétaire, dans ce contexte d'extrême rapport de force dans le travail, n'a pas à ouvrir et fermer une clôture pour aller sur un terrain qui serait sa propriété et son lieu d'exploitation. Donc, c'est à travers ces détails, ce sens du regard précis, le détail qui tue, que Claire Denis réussit quand même à faire un film qui est tout à fait hors norme, hors du temps, et qui va sûrement encore, dans une dizaine d'années, nous éblouir, au moins dans ce sens du détail qui caractérise White Material.
De Christine Brouillette à Albert Camus, en passant par Anne Hébert et Roger Lemelin, nombreux sont les écrivains qui ont flâné dans Québec. La promenade des écrivains vous propose de suivre leurs traces au gré des textes qu'ils ont laissés. En deux heures de flânerie et à travers des lectures commentées, vous découvrirez une ville réinventée où la fiction se marie au réel. La promenade des écrivains, 8 parcours différents et autant d'expériences fascinantes tout au long de la belle saison. Pour plus de détails, rendez-vous sur promenade-écrivain.qc.ca. Dimanche, le 12 juin, c'est le défi Tête rasée au profit de Lecan à la microbrasserie La Barberie. De 14h30 à 16h, CKRL sera sur place et diffusera en direct une émission spéciale animée par François Tremblay, Michel Marcoux et mettra en vedette les braves qui sacrifieront leur chevelure pour la bonne cause. Dès 16h, un encan animé par Michel Marcoux de La Barberie permettra de faire grimper les enchères grâce aux dons des nombreux commanditaires. Venez assister à la transformation de Sylvie, Xavier, Geneviève, Maude et tous les autres qui affronteront les ciseaux de nos experts raseurs. Pour tous les détails, consultez la page Facebook de La Barberie, section événements.
À CKRL, l'été, des nouveautés francophones y en pleut. Du lundi au vendredi, de 13h30 à 15h30, votre radio vous propose son hit parade et ses nouveautés francophones à l'émission Nouveau Cru.
Plus de 10 heures de nouveautés chaque semaine.
L'innovation, seulement au 89 ans.
C'est KRL 89.1. Cultive tes goûts.
J'ai dans la gorge comme un bout de forge, un métal qui peut couper. Sans cet rasoir, je veux bien m'asseoir, et si t'es pas trop occupé, je voudrais te donner des nouvelles de moi. Savoir si toi aussi tu ressens ça, là. Je suis de cette jeunesse qui a eu les fesses bien au jour, j'y sais pas. Thank you. je cache l'œil humide quand je retourne chez ma maman. Et je voulais lui donner des nouvelles de moi, savoir si elle est fière de ce que je fais là. Moi, je me marie et je me taille pas d'éloge à son sujet. Et dans ce truc vieux de mariage plus vieux, moi je veux juste la femme que j'ai. Et je voulais lui donner des nouvelles de moi, savoir si elle aussi elle ressent.
Entendre Renan Luce, la chanson Ridicule. Renan Luce, qui est un chanteur qui illustre un peu certaines tendances de la nouvelle génération de chanteurs français qui fait de la représentation du quotidien et des mœurs un sujet de banalité, mais aussi un sujet de chanson finalement devient un peu un art mineur dans ce contexte-là. Donc pas nécessairement des personnages ambitieux et en particulier une représentation un peu banal de la réalité qu'on trouve aussi chez Benabar et qui fait en sorte parfois qu'on a l'impression que l'expression chansonnière est un peu bas de plafond, mais tout à fait efficace. Donc, commentaire éditorial. Guillaume Lafleur sur les ondes de CKRL, vous écoutez Au 7e ciel, regard sur le cinéma, et une émission que je qualifie en format culotte courte pendant l'été, puisque raccourci avec une demi-heure de moins. Donc, de midi à 13h, on a plutôt 1h30 en saison régulière, du moins. L'émission était de 16h à 17h30 tout au long de la saison automnale, hivernale et printanière. Et maintenant, nous voici de midi à 13h, un format intéressant qui permet un peu de resserrer mon propos autour simplement de quelques films. La première demi-heure était consacrée pronto à White Material de Claire Denis, un film qui n'est toujours pas disponible en salle, mais qu'on peut trouver, disons, sur Amazon.com, malheureusement, je dois le dire, très facilement, puisqu'il est dans la collection Criterion, l'une des meilleures collections DVD en Amérique du Nord. On peut également se commander le film dans l'édition française, si on préfère. Je pense qu'il y a des bonus qui sont distincts de l'édition américaine, à prix assez peu élevé, je pense, pour une vingtaine de dollars, on peut l'avoir. Si on est tenté, 20 dollars finalement c'est pas si cher dans la mesure où si on regarde le film en salle deux fois, ben, ça revient au même. Alors vous pouvez le voir deux fois chez vous. La deuxième demi-heure de cette émission est consacrée à un film qui est présentement en salle, ce qui est déjà une distinction avec le film précédent, qui s'appelle Belle Épine de Rebecca Zlotowski. C'est un premier film qui n'a pas nécessairement fait fureur au portillon et dans les salles cette année en France, mais qui cependant a une reconnaissance critique tout à fait remarquable, ne serait-ce que parce qu'il a nourri quelques articles publiés dans les cahiers du cinéma ces derniers mois. Et également, c'est un film qui s'est fait saluer par le milieu de la critique et le milieu la reconnaissance symbolique. Je sais pas si c'est un milieu, mais en tout cas, c'est un film qui a été très reconnu cette année par les pairs à travers le prix Louis Deluc, qui est un prix très prestigieux qu'on remet à un premier film, si je ne m'abuse. Donc, prix Louis Deluc accordé à Belle Épine de Rebecca Zlotowski. Qu'est-ce que c'est que ce film, Belle Épine? C'est un film, déjà, je dois souligner, qu'on peut voir au clap en ce moment, projeté en Blu-ray. J'ai l'impression que pour continuer à faire des commentaires sur l'état de la distribution du cinéma au Québec et au Canada, voilà un film distribué en principe en 35 mm qui a été tourné pour ça, et probablement qu'il n'y en a qu'une copie, 35 ou alors deux, et elles sont à Montréal. Donc, pour les voir dans l'état parfait, idéal, il faut se déplacer un peu plus. Mais bon, les conditions étant ce qu'elles sont à Québec, qui est quand même la capitale nationale, il faut le voir en DVD au clap. Et c'est sans doute un enjeu économique mais qui crée cette situation. Mais encore, il faudrait vérifier. Et peut-être que la semaine prochaine, s'il y a deux copies qui circulent, ce sera possible de le voir en 35 mm à Québec, je ne sais pas. Belle Épine, c'est quoi? C'est un film qui se veut un portrait de mœurs un peu décalé dans la mesure où ça se passe au milieu des années 70. C'est un portrait de mœurs, un portrait de mœurs comme on en a vu des tas en France, évidemment, depuis très longtemps. Et on sent assez clairement une filiation entre ce film et le cinéma de Maurice Pialat. Bon, pour comprendre un peu ce qu'il y en est de Belle Épine, il faut avoir en tête ce qu'était le cinéma de Maurice Pialat, pas nécessairement ses derniers films. Maurice Pialat était le réalisateur très salué de Sous le soleil de Satan, salué à Cannes à l'époque en 86. Réalisateur également de Van Gogh avec Dutronc en 91, si je ne m'abuse. Donc des films qui s'inscrivaient davantage dans une, je dirais pas dans une qualité française, mais dans une tradition du cinéma français qui veut toucher un plus large public et qui a un soutien assez fort de la production. Là, si on se déplace dans les années 70, c'est un peu plus difficile pour Pialat, même s'il a fait des films quand même avec beaucoup de moyens. Je pense entre autres à La gueule ouverte avec Philippe Léotard et Nathalie Baye. Mais d'autres films beaucoup plus compliqués à faire et beaucoup plus audacieux dans leurs propos. Je pense à Loulou avec Huppert, encore une fois, et avec Depardieu, ainsi que Guy Marchand, qui est une sorte de triangle amoureux, mais un triangle amoureux d'un style particulier, c'est-à-dire que Pialat s'intéressait beaucoup à la qualité documentaire qu'on peut retrouver dans des fictions, et ses films en témoignent, c'est-à-dire que autant que possible, il est au ras de la réalité, dans les confins de la vie intime de ces personnages, et ça fait en sorte qu'ils se trouvent un peu à part dans le tableau de la cinématographie française et qu'ils restent encore un modèle, entre autres pour Belle Épine. Mais non seulement je pense à Loulou, mais à un film comme Passe ton bac d'abord. Bon, je suis pas le premier à le dire, c'est même indiqué dans l'édition Voir de cette semaine à propos de Belle Épine. Donc un film qui s'intéresse à la jeunesse et à la manière dont celle-ci s'exprime, et pas une jeunesse mainstream, pas une jeunesse de la grande bourgeoisie comme on en retrouverait par exemple aujourd'hui dans les films de Christophe Honoré. Je pense à un film comme La Belle Personne qui met aussi en scène Léa Seydoux. C'est plutôt une jeunesse laissée à elle-même, la jeunesse des petites gangs de rue de la fin des années 70. Bon, c'est ce qu'on retrouve dans Passe ton bac d'abord et des références aussi culturelles un peu opaques qui correspondent à l'esprit de clan que l'on retrouve de manière tout à fait caractéristique dans l'adolescence et qui a été bien représenté aussi aux États-Unis dans le cinéma de Larry Clark. Donc on peut dire que ce sont des références qui sont une inspiration importante pour Rebecca Zlotowski dans son film Belle Épine. Mais évidemment, il y a une distance, ne serait-ce qu'avec l'influence du cinéma de Pialat, dans la mesure où elle campe ses personnages dans une réalité qui est celle où Pialat s'exprimait dans les années 70. Évidemment, si on fait un film en 2010 sur cette réalité de la jeunesse des années 70, on est forcément dans un travail de reconstitution et dans un commentaire sur une réalité qui n'est plus la nôtre.
They keep you reaching for your wallet here in Fool's Paradise. I talked to a cat from Des Moines. He said he ran a cleaning plant. That cat was clanking with coin. Well, he must have had a genie in a lamp, 'cause every time I dropped a dime, I blew it. He kept ringing bells, nothing to it. He got three oranges, three lemons, three cherries, three plums. I'm losing my taste for fruit, watching the dry cleaner do it. I might have seen a polyester suit. It's all luck, it's just luck.
get a little lucky and you'll make a little money.
Entendre Johnny Mitchell, une pièce tirée d'un album en concert, justement de l'année où se déroule à peu près Belle Épine, le film de Rebecca Zlotowski dont je parle dans cette dernière partie de l'émission au 7e ciel. Donc un album en concert de Johnny Mitchell qui s'appelle Shadows and Light, et la pièce qu'on vient d'entendre, c'est Dry Cleaner from Des Moines, avec un solo monstrueux de Jaco Pastorius, ni plus ni moins qu'un des maîtres de la basse électrique, entouré de Pat Metheny, Lyle Mays, Don Alias à la batterie, Michael Brecker au saxophone. Alors, Belle Épine, qu'est-ce que c'est que ce film présentement à l'affiche au clap? C'est un film qui montre en scène, qui met en scène en fait donc un personnage féminin qui est laissé à lui-même au moment où sa mère vient de décéder dans un appartement qu'elle habite, mais à peine, on dirait qu'elle le squatte. Elle sort à des heures indues pour, entre autres, aller rejoindre une bande de motards qui font des courses à Rungis. Donc, il y a tout un aspect documentaire assez intéressant dans ce film, même si ça relève évidemment de la reconstitution, donc on est dans le registre de la fiction. Mais il y a un aspect documentaire à ce film, ou en tout cas finement documenté, comme c'est le cas de la plupart des bons films qui ont un regard historique sur une réalité, qu'elle soit proche ou lointaine. Donc, reconstitution des courses de moto qui avaient lieu à l'époque avec des gangs de jeunes motards autour de 76, entre 76 et 79, Et c'est évidemment des courses illégales, un peu comme dans un film méconnu, Claire Denis, qui est magnifique, qui s'appelle « S'en fout la mort, on fait des combats de coq ». De la même manière et de façon relativement documentaire, Rebecca Zlotowski montre ses courses de moto et, disons, l'attirance sexuelle que ça peut avoir pour une jeune femme qui est tout juste en deuil de sa mère, le personnage principal, donc, qui s'appelle Prudence. Évidemment, c'est pas un hasard et on peut pas dire que le scénario joue de subtilité dans la nomination de son personnage principal. Donc, se retrouve face au danger, évidemment, en allant voir cette bande de jeunes mecs, cette bande de loulous en banlieue de Paris qui font des courses. Et c'est une jeune aussi, donc, qu'incarne Léa Seydoux, qui est vierge. Et tout le long du film, il y a comme ça, en trame de fond, finalement, la perte de la virginité du personnage principal. Et c'est vrai que cette manière de raconter de la fiction à travers le portrait d'une jeune femme qui vit une sorte de récit initiatique est tout à fait caractéristique d'une fiction contemporaine qui s'intéresse pas nécessairement au contexte social dans lequel ces personnages évoluent, mais plutôt, disons, à des enjeux de mœurs qu'il s'agirait de dépasser. Ce serait illustré par excellence dans un film, par exemple, comme Au septième ciel de Benoît Jacquot, où l'essentiel de la situation que veut nous présenter le cinéaste tourne autour de la frigidité de son personnage principal. Donc, on a l'impression que Rebecca Zlotowski, d'une part, s'inscrit dans ce courant, donc essentiellement lié à une sorte d'affranchissement du personnage principal qu'on veut nous montrer, qui passe par une béatitude, une prise en compte saine de la libido et autre chose. Et cette autre chose, ben, ça entre en tension avec un contenu psychologique un peu plus typique du cinéma français depuis les années 90, qui est de montrer finalement une réalité sociale qui est un peu éloignée de nous et une réalité sociale populaire. Donc, presque truculente, presque, disons... exotique aujourd'hui et encore plus car c'était déjà exotique à l'époque. Donc, si on veut, tout au long du film, il y a cette tension qui est assez intéressante, qui fait l'originalité du film de Zlotowski, entre une volonté d'affranchissement plus banale qu'on pourrait retrouver chez n'importe quel jeune personnage féminin âgé de 17 ans qui, en plus, vient de perdre sa mère, et quelque chose de beaucoup plus âpre qui a à voir avec la représentation de la réalité de jeunes motards. Et cela fait avec un certain goût pour le documentaire. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, à un moment donné, il y a une sorte de nivellement entre cette volonté de reconstituer une réalité âpre, qui est celle des banlieues, de personnages, de petits loulous, de petits marlous, comme on les appelait à l'époque, qui font des courses la nuit pour s'amuser, qui sont aussi employés en usine. Le personnage principal, je vous parlais assez doux, Santiche, Prudence, Santiche d'un autre personnage qui fait des courses la nuit, mais qui travaille également dans une usine où on désarrête des poissons. Donc, la voilà finalement confrontée à quelque chose d'exotique, et nous, spectateurs, face à une reconstitution cinématographique d'une réalité assez éloignée de nous, sommes d'autant plus face à une forme d'exotisme qui a à voir aussi avec le sentiment de découverte du personnage principal, qui est ce goût de la sensualité, ce goût de s'épanouir sexuellement. Donc, si on veut, tout à coup, la reconstitution historique, même si elle n'est pas si éloignée de nous, mais très exotique, rejoint l'état psychologique dans lequel l'état psychologique dans lequel se trouve le personnage principal et ses obsessions. Et on peut dire qu'à ce niveau-là, Rebecca Zlotowski s'inscrit dans une lignée cinématographique assez vive de réalisme social qui n'a pas mis de côté, disons, le contenu psychanalytico-sexuel que l'on attache généralement à la bourgeoisie au profit d'une représentation des rapports de classe et des rapports de force qui est toujours caractéristique d'un cinéma qui s'intéresse aux classes populaires avec un regard sociologique. Au contraire, il s'agit de mêler les deux, et c'est ce qu'on trouve en particulier dans le cinéma des Frères Dardenne depuis les années 2000, qui décidément se positionne en éclaireur du cinéma contemporain. Je pense en particulier à un film comme Rosetta. Rebecca, c'est un film d'Hitchcock. Mais justement, Rebecca est une sorte de référence qui pourrait avoir nourri aussi Zlotowski, c'est-à-dire que Rebecca, le portrait filmé par Hitchcock d'Ingrid Bergman avec sa grande pudeur, sa aux ornières de la frigidité, son manque de grâce et d'ouverture qui fait en sorte qu'elle se retrouve dans sa maison comme dans une prison. Et justement, le personnage du film Belle Épine, Prudence, veut sortir de cette prison qui est la maison de sa mère. Donc, tout à coup, Rebecca rencontre Rosetta des frères Dardenne. Voilà les surprises que nous offrent parfois les lapsus, Hitchcock et les frères Dardenne, dans une seule phrase. L'auriez-vous cru? C'est un des plaisirs de faire cette émission au 7e ciel que de susciter des rencontres surprenantes. Au 7e ciel, regard sur le cinéma, une heure consacrée au cinéma chaque semaine sur les ondes de CKRL 89.1. Ici Guillaume Lafleur, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres élucubrations et découvertes de cinématographies diverses. À bientôt.